tristeza e diz a ele que sem ele não pode ser. Diz-lhe numa prece que ele regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ele não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ele voltar, se ele voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, pra acabar com esse negócio de jamais viver sem mim. Coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de querer viver sem mim. Vamos deixar desse negócio de viver longe de mim.
Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Grenouille 88.8 pour une émission spéciale 50 ans de Bossa Nova. C'est Stéphane au micro pour vous accompagner tout au long de cette émission et pour accueillir nos deux invités, Armando Cox, que vous connaissez via son émission et sa structure Cocotte Musique. Bonjour Armando.
Salut.
Et Yves Guénoun, notre invité spécial à plusieurs titres, j'ai envie de dire bonjour Yves.
Bonjour.
Musicien, amateur éclairé et passionné surtout, qui a vécu peut-être pas 50 ans, mais une bonne partie de sa vie, qui a vécu Bossa Nova, on peut le dire.
41 ans. Pas que Bossa Nova, mais beaucoup Bossa Nova.
Comme on va le voir, la Bossa Nova, une musique qui a beaucoup de liens avec le jazz, c'est aussi de là que tu viens, Yves, je crois. Hein.
Non. j'ai jamais été un musicien de jazz. Je viens plutôt de la musique de variété, si tu veux. J'essayais de jouer proprement de la musique de variété. Donc, certains airs de jazz, comme C'est magnifique, de Cole Porter, ou... Enfin, tous les airs de variété.
Je savais que c'était Stan Getz qui t'a amené à la Bossa Nova en premier.
J'écoutais du jazz beaucoup. Et c'est d'ailleurs, c'est peut-être déjà trop tôt pour en parler, mais c'est quand le jazz a évolué vers le free jazz que je me suis raccroché à la présence de mélodie et d'harmonie et de rythme que je comprenais encore en basculant vers la Bossa Nova.
Chega de Saudade.
Yves Guénoun, juste pour ajouter un truc un peu plus people, c'est que sa découverte quand même, parce qu'il y a quelques années quand on s'est connus, il m'a dit, tu sais Armando, moi j'ai découvert la musique brésilienne en Algérie, tu sais, on peut en Algérie découvrir tout quoi. Voilà.
J'étais coopérant J'étais retourné pour être coopérant. Et non, j'ai pas découvert en Algérie. J'en avais entendu étant enfant en Algérie, par exemple le film Okangaseiro en 52, ou d'autres thèmes brésiliens. Mais c'est lors de ce séjour de coopération que j'ai décidé de m'y arrêter à la musique brésilienne. Voilà.
Donc, Chega de Saudade, le titre que l'on vient d'entendre avec la voix d'Elisette Moreira Cardoso, une composition de Tom Jobim, des paroles de Vinicius de Moraes, hein, le couple de magiciens qu'on peut placer à l'origine de cette révolution musicale que va être la bossa nova. On est en 1958, 50 ans plus tard, donc 2008, on peut identifier cette date comme étant les origines de ce mouvement, même si on va en discuter dans le détail avec Yves, parce qu'il y a des polémiques autour de ça aussi. Cette émission spéciale, c'est aussi l'ouverture d'une semaine spéciale consacrée à cette musique sur le fil musical de Radio Grenouille, jusqu'au 6 juin, où les 50 ans de la bossa nova vont être fêtés avec vous, public, on l'espère, et avec de nombreux musiciens, Armando, lors d'un événement en plein air, je crois.
Oui. Alors bon, ceux qui connaissent par exemple le Garden Blues connaissent le jardin de la Barrasse. Donc ça sera à l'extérieur, donc à la Barrasse, dans le 11e arrondissement de Marseille. Et on a eu à faire une centaine d'invitations de gens qui sont soit brésiliens, soit brésilophiles, qui vont venir donner leur touche de bossa, leur compréhension de bossa nova. Donc pendant, il y a au moins 50 musiciens, pour l'instant il y en a une soixantaine qui ont confirmé. Donc on va passer toute une nuit pour écouter sur scène la bossa nova, donc les 6 juin.
L'enregistrement que l'on vient d'entendre, Yves, on y entendait, tu nous expliquais ça en antenne, pour la première fois sur un enregistrement par des musiciens brésiliens, une batterie, donc instrument qui a été inventé par dans le cadre de la naissance du jazz, on va dire. Hein. Avant ça, au Brésil, c'était des ensembles de percussions. C'est la première fois qu'on entend une batterie et c'est la première fois aussi qu'on entend la guitare de João Gilberto.
Oui, c'est parce que tu as tout à l'heure cité les noms de Jobim, Vinicius et la chanteuse Elisette. Mais la révolution provient de l'irruption du guitariste João Gilberto. Et c'est la première fois qu'on entend sa manière de jouer de la guitare dans deux des morceaux du disque Canção de Amor de Mais. Il accompagnait donc Elisette Cardoso dans Chega de Saudade et dans le second Outravesh. Mais si tu veux, lui-même, quand tu lui as demandé d'où venait cette batchide et cette manière de chanter, puisque la bossa c'est une manière de chanter qui va être concrétisée complètement par le disque de João Gilberto, enregistré 6 mois plus tard dans la même année 58.
On va l'écouter tout à l'heure.
Et une manière d'accompagner la guitare. Lui-même, on lui demandait d'où tu sors cette batchide. Il a répondu du bruit des lavandières de sa ville natale, Juazeiro, dans l'état de Salvador, de l'état de Bahia. Et il disait qu'il y avait un pianiste qui l'a influencé énormément dans la conception de l'accompagnement et du chant déjà extrêmement retenu. C'est Johnny Half. Alors João Alfredo da Silva, baptisé, ils ont tous des prénoms américains à l'époque, hein. Ça a été une source de critique pour la bossa nova, puisqu'on a reproché à la bossa nova d'être américanisée.
On l'a reproché au Brésil en tout cas, j'imagine.
Bon, il faudra reparler de ça. C'est quand même, la bossa nova est quand même de la samba, on verra si on doit dire de la ou du samba, joué d'une certaine manière. C'est pas du jazz. Et donc Johnny Half, c'est un pianiste qui dès 54-55 avait déjà composé d'une manière peu orthodoxe. On pourrait écouter Rapaz de Bem, mais interprété par Leila Pinheiro, qui est une tout à fait chanteuse actuelle. C'est une composition, si on fait attention à la manière dont c'est composé, la mélodie et l'harmonie sont extrêmement imbriquées. Et oui, il y a une influence
Du jazz. Mais est-ce qu'il faut pas signaler aussi le fait que Johnny Half, c'était quand même quelqu'un qui a été le premier à accueillir le jazz en arrivant. C'est vrai que le jazz arrive au Brésil dans les années 20, 25. Et lui, en tout cas, c'est quelqu'un qui tournait énormément dans les milieux américains et notamment dans le fameux institut Brésil-États-Unis, dans lequel d'ailleurs c'est là qu'on l'a donné le surnom de Johnny Half, et qui n'est pas du tout un Américain, et qui était quand même un crooner aussi, Yves.
Johnny Half?
Oui.
Sans doute, peut-être. Moi, je l'ai rencontré en 82. Il a une manière de... Comme Nat King Cole. On peut dire que c'est un Nat King Cole.
Qui est aussi un autre crooner.
Oui. Mais... on l'écoute?
Ouais.
Musique.
Sabe, eu sou rapaz de bem. Minha onda é do vai e vem. Pois com as pessoas que eu bem tratar, eu qualquer dia posso me arrumar. Vê se mora no meu preparo intelectual. É o trabalho a pior moral, não sendo a minha apresentação, no meu dinheiro só de arrumação. Eu tenho casa, tenho comida, não passo fome, graças a Deus. E no esporte eu sou de morte. Tendo isso tudo, eu não preciso de mais nada. É claro, se a luz do sol vem me trazer calor, e a luz da lua vem trazer amor, tudo de graça a natureza dá. Pra que que eu quero trabalhar?
Ce n'est pas Johnny Half que nous venons d'entendre, c'était Leila Pinheiro qui donc interprétait une composition de Johnny Half, Rapaz de Bem. Corrigez-moi ma prononciation, messieurs, n'hésitez pas si elle n'est pas correcte.
C'est les garçons bien, on peut donc pour le traduire. Hein. C'est les garçons bien, sauf des mecs bien, quoi.
Une composition de 1955,
oui.
Donc pré-bossa, on peut dire.
Ah, oui. On considère que cette composition, dans son déroulement harmonique, avait influencé cette manière de vouloir moderniser la conception de la chanson et de l'accompagnement de la chanson au Brésil.
Yves, peut-être avant de de continuer de parler un peu de l'environnement socio-politique de l'époque, parce que c'est vrai qu'on parle de modernité. Moi, je me souviens seulement que cette période entre 56 et les années 50, en tout cas, dans son ensemble, les Brésils vivent vraiment dans la joie, quoi. On peut dire que c'est la période un peu bling-bling. C'est ça, avec un président, Juscelino Kubitschek, qui est à l'origine de la construction de Brasilia. Amis de musiciens, d'artistes.
Mais écoute, c'est une période heureuse. Et alors, c'est une période.
C'est les années folles du Brésil.
Oui, c'est une période. Le Brésil se sent bien. Enfin, en tout cas, le Brésil de la classe moyenne de dirigeante. Il y a le théâtre novo, il y a le cinéma novo. Mm-hmm. Et le président que tu viens de citer annonce, il faut le dire, annonce dès qu'il est élu qu'il va changer la capitale du pays, passer de Rio à Brasilia, et 4 ans après, on inaugure une nouvelle capitale, Brasilia. Elle sera pas terminée, mais elle est inaugurée 4 ans après. Tu imagines, dans 4 ans, si on c'était plus Paris, c'était Marseille, ou non, parce que ce serait au centre de la France.
Au centre de la France, par exemple. Et c'est vrai que les slogans de campagne de Kubitschek, c'est 50 ans de progrès en 5 ans. Donc, 5 ans de pouvoir. Et c'est l'ami de Niemeyer qui construit en grande partie l'architecte Niemeyer.
Ah, si tu me lances ce nom de Niemeyer, je ne peux pas ne pas parler du fait que c'est Niemeyer qui avait fait les décors de la pièce de théâtre qu'on fait Orphée d'Aconcesson, dont on a parlé tout à l'heure.
Donc, qui viendra ensuite Orphée Negro, mais qu'on parlera tout à l'heure.
Ah oui. Qui a précédé le film Orfeu Negro. Mais c'est 58, c'est aussi l'année du championnat, le premier mondial gagné par le Brésil, okay, avec Pelé et Garrincha. Mmh. C'est l'année du championnat de boxe, je crois.
Aussi, de boxe.
De tennis. Mmh. Enfin, c'est un Brésil qui croit au miracle brésilien. Et c'est un Brésil qui donne à la jeunesse. Une jeunesse aisée. Hein. Il ne faut pas mélanger tous les problèmes. Je veux dire, c'est pas. Ouais. Politiquement, ce n'est pas ambigu. C'est-à-dire, il n'était pas question ni de néocolonialisme, ni d'exploitation. C'est la jeunesse dorée de la zone sud de Rio qui se voit l'occasion d'inventer un mouvement qui va devenir un mouvement culturel essentiel dans la culture brésilienne. C'est pas dans tous les pays que la jeunesse. Et se voit responsable d'un mouvement culturel. C'est des jeunes ils ont envie d'être heureux, quoi. C'est Gilles qui a dit, non, c'est Carlos Lira qui a dit, nous étions jeunes, nous voulions donner l'image d'un Brésil qui mérite d'être heureux. Et donc, un certain optimisme par rapport à la phase précédente de la chanson, qui était chanson de fosse, samba de fosse, mm-hmm, c'est-à-dire où il n'était pas rare que quelqu'un se suicide pendant l'exécution, tellement c'était triste. Il y avait des coups de feu annonçant l'assassinat de l'amant ou du mari, ou je ne sais pas.
Bon. Donc on est à, tu me disais Yves, on est à Rio, revenons donc en 1958, dans un Brésil optimiste, positif, en plein essor, et puis c'est un petit cercle d'amis finalement, hein, de musiciens, qui va être à l'origine de cette révolution musicale, avec en tête de proue João Gilberto.
C'est-à-dire que cette jeunesse, les gens se réunissent dans les appartements ou dans les maisons particulières, notamment dans l'appartement de Nara Leão, qui a été baptisé depuis... surtout été baptisé à la muse de la bossa nova, parce que c'est dans son appartement, dans l'appartement de ses parents, Avenida Atlântica, à Copacabana d'ailleurs, parce qu'on a souvent dit que les gens habitaient Copacabana, habitaient Ipanema, mais qu'ils allaient faire la musique à Copacabana encore. C'est donc à cheval entre Copacabana et Ipanema, la naissance de la bossa nova. Donc dans l'appartement de Nara Leão, Avenida Atlântica, à Copacabana, que se réunissait toute une équipe de jeunes qui attendaient quelque chose, d'après l'expression de Roberto Menescal. Il y avait Roberto Menescal, Carlos Lira, les frères Castro Neves, Lula Frère, et de temps en temps, il apparaissait des gens comme João Gilberto. Tout le monde attendait quelque chose, et ce quelque chose, ça a été la découverte de la manière de jouer de João Gilberto.
Alors on entendait bien sa main droite tout à l'heure sur la version de Chega de Saudade et qu'on écoutait en ouverture de cette émission. On va écouter là dans quelques instants sa version avec sa voix de la même composition de Jobim et oui. Demorès. Oui. En quoi est-ce que c'est vraiment, du point de vue musical, en quoi est-ce que c'est révolutionnaire par rapport à l'interprétation de la chanson à l'époque, Yves?
Parce que c'est révolutionnaire dans la mesure où il y a une...
Puisque c'est pas révolutionnaire du côté social, ça on l'aura compris, par contre musicalement...
Voilà, d'accord. C'est nouveau, hein, c'est nouveau parce que... Est-ce la présence des voisins dans ces immeubles, du nouvel urbanisme, des appartements de Copacabana et Ipanema, qui fait qu'on devait chanter plus bas? Donc on invente une c'est raconté dans le film par... Roberto Menescal, et les coups de balai de voisins qui trouvent que la musique est trop forte, ça existe aussi là-bas, mais en zone sud, quoi. Et donc, il faut chanter plus bas. C'est nouveau dans la mesure où l'harmonie est plus sophistiquée que dans les accompagnements précédents, où c'était souvent des accords parfaits, des enchaînements classiques, et c'est incorporé donc dans la main gauche de Jean Gilberto, et la rythmique, c'est une espèce de réduction, de concentré de la batucada brésilienne. Alors, l'harmonie, on en reparlera tout à l'heure, l'harmonie, c'est... Ça provient du fait que ces gens-là ont étudié la musique, même Johnny Half, je veux dire, qui était né plutôt en zone nord, à Ville-Isabelle. Mais peut-être qu'à l'époque, c'était pas tellement en zone nord, à Ville-Isabelle, c'était près du centre quand même.
Très près du centre. Hein.
Donc ils ont étudié le jazz, la musique classique.
Ils avaient étudié la musique classique, ils écoutaient le jazz parce qu'ils avaient les moyens d'écouter le jazz, ils aimaient ça, et ils ne pouvaient pas renoncer à la samba, parce qu'aucun Brésilien n'y renonce, ça j'ai pas vu encore. Et donc c'est une espèce de cette synthèse, c'est la synthèse de cette pratique de la rythmique brésilienne simplifiée, toute une batucada de plusieurs centaines d'exécutants à une seule rythmique qui est d'ailleurs constituée de le pouce qui fait la basse et les trois autres doigts qui jouent plutôt le tambourin. Bon. C'est génial déjà, plus l'incorporation à la musique, plus le fait qu'au lieu de clamer « Ciao le bel canto », là, il n'est plus question de clamer ou d'avoir une musique ostentatoire.
Quoi. On est dans la subtilité, la nuance, certaines sophistications.
Et il n'hésite pas là-bas à employer le mot de délicatesse. Mm-hmm. C'est... Voilà. Alors, on peut écouter la version de Chega de Saudade par Juan. Mais c'est quelques mois plus tard, avant la précédente, qui d'ailleurs avait une introduction très, très classique, très emphatique. Encore.
Oui, ça faisait un peu rappel au cinéma américain des années 50.
Assez hollywoodien. Hollywoodien.
Mais cette introduction a disparu dans la version de Juan, et on attaque directement par quand même l'introduction à la flûte. Qui est tout à fait une citation de ce que Jobim appelle le type d'introduction que faisaient les orchestres régionaux, c'est-à-dire de Chourinho. Donc, la première partie de Chega de Saudade est composée plutôt classique. Elle est plutôt mineure. Et il est question d'une certaine saudade, d'une certaine nostalgie. Et dans la deuxième partie, qui passe en mode majeur, ras-le-bol la nostalgie, Chega de Saudade, no more blues.
Tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca.
teus traços, os abraços são de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de viver.
Chega de saudade par João Gilberto. Donc, où on vient d'entendre un petit peu donc le concentré, l'origine de tout ce que Yves nous décrivait, cette révolution musicale de la nouvelle vague brésilienne, la bossa nova. Donc, du point de vue rythmique, on a bien compris, hein, il s'agit d'une forme de synthèse de la culture sambiste notamment brésilienne. Du point de vue harmonique, c'est extrêmement sophistiqué. Bon, l'interprétation est tout en délicatesse et a l'air comme ça extrêmement aisé, mais derrière il y a une sophistication musicale inédite.
Oui, il y a l'emploi, si tu veux, dans les accords.
En chanson populaire, en tout cas, je dirais.
Il y a l'emploi dans les accords de ce qu'on appelle la dissonance, mais la dissonance classique. C'est-à-dire, les accords du jazz, du middle, adaptés dans des renversements très précis dans la bossa nova. C'est-à-dire que je crois qu'au préalablement, on indiquait simplement la tonalité, la mineure ou do mineur. Et maintenant, on commence à indiquer que ce tel accord sera un accord de septième, neuvième, onzième, quinte bémol, des choses comme ça. Ça figure dans les compositions. Donc, il y a une recherche de la sophistication précise de l'harmonie. Et l'harmonie va influencer même un type de composition. Alors, on va passer à... je voudrais qu'on écoute maintenant Desafinado de Jobim et Newton Mendonça, qui était le premier partenaire chronologiquement de Jobim, avant que Jobim rencontre Vinicius de Moraes pour composer la... Je ne sais plus si on en a pas suffisamment parlé de la pièce de théâtre.
On en parlera du moins rapidement tout à l'heure.
Par rapport chose, à... Oui. Alors... Desafinado.
Peut-être, ou Desafinado, ou Samba do Manotasso, qui sont quand même de titres.
C'est Desafinado, parce que ouais. De même que Chega de Saudade a été le point zéro de la bossa nova au Brésil, et qui a déclenché le mini-séisme, là, le véritable tsunami, ça a été Desafinado aux États-Unis, qui est considéré comme le morceau numéro un de la bossa nova. Et.
Enregistré en 58 aussi, sorti aux États-Unis à quel moment un peu après.
Peut-être un peu après, oui. Sinon, aux États-Unis, je ne sais pas. En tout cas, les Américains qui passaient par là l'ont entendu. Et je ne sais pas si le disque est sorti aux États-Unis. Ça, tu vois, c'est une question que je ne t'ai pas posée. Je sais que les Américains qui passaient au Brésil ont repéré ce type de composition au point, 4 ans plus tard, d'inviter toute l'équipe des responsables de la bossa nova dans un concert qui aura lieu en 62 au Carnegie Hall, où il y aura toute l'équipe qui participe. On pourra la citer tout à l'heure si vous voulez. Mais dans Desafinado, il est remarquable. Enfin, il me plaît d'en parler parce que, en écoutant le début, là, si você dizer que eu desafinamo, cette note-là, qui d'ailleurs est corrélative au fait que dans les paroles on parle de quelqu'un qui jouerait faux et on compose une mélodie qui a l'air d'être fausse.
Desafinado, désaccordé.
Oui, désaccordé.
Oui. Et les gens, on doit à ce morceau-là le fait que beaucoup de gens pensaient que Gilberto chantait faux. Alors qu'il chante extrêmement précisément et juste. Mais c'était dans le désir de mettre en adéquation, c'était peut-être ce qu'on appelle plus tard la poésie concrète. L'adéquation
le
entre...
Le concrétisme, est-ce que ça a un lien avec Debussy,
non, c'est une référence. C'était une référence de même de la poésie concrète de 50 ans.
La poésie concrète.
Oui.
Le concrétisme européen.
Oui. Et si tu veux, donc il y a une adéquation entre le texte et la musique. On pourra tout à l'heure l'entendre aussi dans Samba de Mano Tasso, qui est la perfection absolue de cette situation où chaque mot du texte est illustré par ce qui se passe musicalement. Mais on va commencer par Desafinado parce que c'est incontournable à mon avis.
Se você disser que eu desafino, amor,
Saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. Porque você não sabe, nem sequer presente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Este é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Tum, 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 tum.
Desafinado, donc que l'on vient d'écouter, toujours dans le cadre de cette émission spéciale autour des 50 ans de la bossa nova sur Radio Grenouille. Alors il y a quand même, d'abord il y a une chose que je voudrais remarquer, tous les morceaux qu'on vient d'entendre sont, bon c'est dû aussi au format de l'époque évidemment, mais sont des sortes de miniatures, c'est très court, avec des condensés, c'est extrêmement mélodique, avec une sophistication harmonique qu'on évoquait tout à l'heure. Et en même temps, tout ça avec une sorte de discrétion qu'on évoquait aussi, Yves, cette manière de chanter unique qui est presque proche du parler aussi.
Là, tu me donnes l'occasion d'évoquer un problème de technologie. C'est-à-dire que la bossa nova, c'est aussi l'époque où on a encore des 78 tours. Donc c'était limité à combien de minutes, le 78 tours?
3 minutes face, et quelques, je crois.
3 minutes. Et,
face A et face B.
Et il existe des bossa nova qui ont été enregistrés en 78 tours et aussi en 33 tours après. Donc si tu veux, est-ce qu'ils ont tout à fait au début réalisé qu'ils disposaient d'une plage entière? Peut-être pas. En tout cas, il y avait le format extrêmement... C'était peut-être une habitude de composer très court.
Oui, c'était sans doute une obligation même, hein, technologique, mais c'est du coup, c'est l'impression de condensation, hein, oui. Et de densité extrême de la musique.
Ce qui est très touchant, c'est que de même que la samba en 1917 a bénéficié de l'irruption de la possibilité de diffuser par le disque des galettes noires,
en
acétate, oui. De même, quand la bossa nova a eu lieu, avec ce réservoir de créativité derrière, ils ont disposé du nouveau support possible qui était le long play, c'est-à-dire le 33 tours.
Ouais.
Et j'avais posé la question une fois à Armando, quand on est passé au CD, c'était à peu près l'époque de la musique pop, et est-ce qu'il y a eu un mouvement qui a permis de voir une adéquation comme ça entre le nouveau style de musique et le CD?
Bon, on en fera une autre émission spéciale peut-être.
Non, c'est une question.
Mais c'est vrai que c'est une excellente question.
Il
y a une histoire de la musique qui est aussi une histoire des technologies utilisées dans l'industrie musicale. Alors là, en l'occurrence, moi ce que je trouve, ce sur quoi je voudrais attirer ton attention, Yves, alors on disait des affinados avec cette note dissonante sur la première phrase. Alors il y a en même temps c'est d'une extrême sophistication. Il y a de l'humour. On parlait de musique positive, mais c'est une musique aussi très mélancolique.
Justement, ce qu'en fait, juste pour appuyer
Armando,
dans ton sens, c'est que Vinicius de Moraes qui disait à peu près que faire une bossa sans tristesse, ce serait aimer une femme qui ne serait que belle.
Alors, il y a quand même une assurance. Voilà, c'est ça que je voulais souligner. Il y a une assurance de ces jeunes musiciens qui est assez qui a dû être aussi à l'époque assez impressionnante pour des premiers enregistrements.
Des affinades où par exemple le texte il est dit que isto é bossa nova, isto é muito natural. Il considère que c'est naturel pour il faut. C'était la présence d'éléments d'instruments harmoniques comme la guitare. On n'a pas assez dit qu'avec la bossa nova, il y a eu l'irruption de la guitare par rapport à l'accordéon. C'est-à-dire qu'avant...
On fête cette année les 178 ans de la création, plutôt l'invention de l'accordéon.
Cette génération au Brésil avait décidé que le piano, c'était bon pour la pratique bourgeoise dans l'appartement, des gens qui se tenaient bien, que l'accordéon, c'était harmonique, mais c'était démodé, il fallait quelque chose d'autre qui permettait d'aller sur la plage et de draguer mieux, d'ailleurs, qu'avec un piano ou un accordéon. Donc la guitare, qui est très transportable, comme tout le monde sait. Il y a une photo merveilleuse, d'ailleurs, extraite d'un film où on voit Juan Gilberto, Tom Jobim. Dans l'eau, il y a d'ailleurs aussi Luis Essa, je crois, le pianiste du Tamba Trio, et Mylène de Mongeau, sur la plage. C'est quelques instants d'un film qu'évidemment, tous nos auditeurs peuvent retrouver en cliquant sur YouTube. Jobim de Mongeau, vous arrivez sur la scène du film directement. Je t'avais dit, Armando, que... tous les mots qu'on prononce ici, nos auditeurs peuvent les voir,
les retrouver
sur YouTube. Je ne sais pas si c'est de la pub, non, c'est pas de la pub.
Yves, est-ce que ça sert quand même pas intéressant parce que pour savoir quel est l'impact de la sortie de ces disques en 1958 chez Gadi Saudade, qui est une composition de Vinicius le duo.
Tom Jobim.
Attends, j'étais en train de dire que c'était extrait d'un film qui s'appelle Copacabana Palace et qui est une des questions sans réponse auxquelles je m'attelle depuis plusieurs années. Où peut-on voir ce film? On me transmettra votre réponse. Copacabana Palace, dans lequel on voit Juan Gilberto et Jobim et Luis Essa. Il y en a des extraits dans YouTube, mais j'ai jamais vu ce film. Il y a d'autres films qu'on n'a pas pu voir, je crois. Garota de Ipanema. C'est un film où il y a toutes les gens qui participent. Il y a Jeanne la Française avec la fameuse chanson de Chico Buarque et Jeanne Moreau, qui est un film que je n'ai pas pu obtenir ni à l'Alcazar ni à Paris.
Bon, justement, Yves, toi tu vas bientôt au Brésil, tu vas faire tes recherches là-bas.
Je vous ramène
le film et ensuite on saura de traduire.
Pour ce que tu m'as demandé sur l'impact de Chico Buarque.
Oui.
L'impact c'était succès zéro au début. Il en raconte même que quelqu'un qui reçoit le disque à São Paulo casse le disque en disant « Regardez-moi ce que nous envoie Rio de Janeiro, c'est une catastrophique » et refuse de l'écouter. C'était un vendeur d'une loge, d'un magasin de disques. Là. Je ne sais pas si c'est pour Chico Buarque ou pour d'Elisette ou de Joan. C'était peut-être pour le disque de Joan.
Mais quand est-ce qu'au Brésil, alors, la bossa nova est enfin reconnue comme la révolution? Ils vont pas attendre 62 qu'elle arrive au Carnegie Hall de New York, quand même.
Elle est reconnue, mais dans la zone sud, elle n'est pas tellement diffusée, elle n'est pas tellement pratiquée. Je te rappelle qu'on en était à Samba de Mano Tasso.
Oui, c'est là qu'on voulait en venir. Alors justement, avec toute cette sophistication musicale, c'est limite aussi ironique et presque. Enfin, ils font preuve d'un sens de l'humour certain aussi, ces musiciens, de composer samba avec, puisque donc avec là, une, comment est-ce qu'on traduit ça note. Avec une seule note,
avec
quoi.
Seule note. Hein,
samba avec une seule note.
Oui. Esaki este sambini fait un Mano Tasso. Pendant ce temps-là, l'harmonie déroule derrière. La suite du texte est assez... Autres notes vont entrer, mazabas ou masso. D'autres notes vont rentrer dans la mélodie. Et il annonce d'autres notes vont rentrer et immédiatement, la mélodie passe sur une deuxième note. Moi, ça m'avait choqué parce que le titre s'appelle Samba d'une même note, mais il n'y en a pas qu'une.
Oui, tout le long il triche un petit peu, mais le clin d'œil est quand même bien
et
appuyé.
Puis,
quoi.
Mais c'est la conséquence de ce que je viens de dire. C'était la conséquence en même temps harmonique. Alors, c'est une, je ne sais pas comment on peut appeler cette espèce d'adéquation parfaite entre le texte et la musique. Moi, j'y vois une analogie avec le fait que, par exemple, dans les comédies musicales, il est toujours question de la musique qui se fait. Les comédies musicales sont souvent un spectacle sur un spectacle qui naît avec tel ou tel problème. Et là, on fait une musique à l'occasion du fait que la musique se fait.
Ça donne une théâtralité à ce qu'on entend, toute particulière. On écoute ça.
Eis aqui este sambinha, feito numa nota só, Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala, fala e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda escala e no final não sobrou nada. Não deu em nada e voltei pra minha nota. Como eu volto pra você, vou dizer com a minha nota como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, sempre acaba sem nenhuma, fique numa nota só.
Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você.
Quanta gente existe por aí que fala, fala e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda a escala e no final não sobrou nada. Não deu em nada e voltei pra minha nota. Como eu volto pra você, vou dizer com a minha nota como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, sempre acaba sem nenhuma, fique numa nota só.
Samba de uma nota só, interprété ici par Sylvia Telles, une version, je crois, légèrement postérieure à la composition, non? Ou c'est à la de la composition, enfin.
Non, non, ça c'est une version de 59, quoi.
D'accord.
C'est
en plein boom, en tout cas, le créatif de la bossa nova.
D'ailleurs, elle n'aurait pas pu être plus tardive, puisque Sylvia Telles est morte en 60 en accident de voiture, je pense. C'est pourtant une des chanteuses qui incarne totalement la chanteuse qui est du passage à la bossa nova, quoi.
C'est-à-dire en quoi
elle était déjà prête à chanter d'une manière aussi extrêmement confidentielle, et elle était en plein dans ses compositions de Jobim et de Vinicius de Moraes, de Newton Mendonça et de Roberto Menescal, ou de cette équipe, quoi. Elle ne clamait pas la chanson, elle était dans l'esprit de l'équipe. Là.
Il y a un nom qui revient souvent, dont tu voulais nous parler un petit peu plus, Roberto Menescal, dans ce que tu appelles cette équipe de la jeunesse dorée de Rio. Quel rôle a-t-il joué ?
Je voulais te dire que, au sujet de Samba de uma nota só, c'est la troisième musique la plus interprétée au monde, je crois, après Yesterday des Beatles et Garota de Ipanema de Tom Jobim.
Ah, il y a deux bossa nova quand même dans les trois chansons les plus interprétées.
Et dans la troisième, il y a Newton Mendonça qui est mort quand même à 39 ans, très jeune, comme compositeur. Et je sais que quand on disait ça à Jobim, il disait oui, mais bon, les Beatles, c'était quand même mis à quatre pour faire leur compo. Voilà.
Et donc oui, Roberto,
Roberto Menescal. Alors Roberto Menescal a une grande importance en tant que compositeur, peut-être un peu moindre que de celle de Carlos Lyra, dont on n'a pas encore parlé, qui a fait plus de mélodies très connues de cette époque de bossa nova. Mais c'est un compositeur qui a su d'un coup parler de Rio, de décor géographique. Il a fait deux chansons extrêmement pratiquées par cette époque-là, qui sont Rio, qui sont Barquinho, parce que on a dit tout à l'heure que tous ces jeunes allaient à la pêche, et il y a les photos en témoignent, on peut les voir sur cette barque de Roberto Menescal. C'était une barque où, paraît-il, une fois ils sont tombés en panne. Et Roberto Menescal raconte que c'était le bruit du moteur qui n'arrivait pas à redémarrer. Et puis il y a un ralentissement, et puis on démarre plus bas. Ils sont restés en rade. Ils savent pas comment ça va. Ils ont, ils croient qu'ils ont été carrément secourus. Ils sont rentrés le soir, mais le lendemain, ils en ont fait une chanson. Alors, c'est, tu as dit qu'on écoutait Warking. Et Ménescal, il est responsable des festivités du cinquantenaire à Bossa Nova Rio.
D'accord.
D'ailleurs, beaucoup lui reprochent d'un petit peu occuper le devant de la scène et peut-être de servir un peu plus l'équipe qui est autour de lui encore actuellement, y compris son fils ou son neveu qui sont responsables de Bossa Coca Nova, oui. et de la techno, la Bossa techno, la Bossa électronique, là, et dont vous parlerez sans doute en fin d'émission.
Bossa Coca Nova, qui est donc de décembre.
Donc le 1er mars, il y a eu un immense show sur à Ipanema avec tête d'affiche Carlos Lira et Roberto Ménescal, étaient beaucoup d'interprètes de la bossa nova. Il y a eu des millions de personnes sur la plage, mais ils n'hésitent pas à aller pour le réveillon à Copacabana. Il y a 5 millions de personnes là. Quelques mois après, il y avait pour fêter la bossa nova. Ça correspondait aussi avec l'anniversaire de la ville de Rio de Janeiro.
Donc ils ont bien 58, c'est bien l'année de naissance de la bossa nova, on en est bien sûr. La bossa nova a 50 ans en 2008.
Si la bossa nova est la manière de jouer de João Gilberto, c'est la première fois qu'on l'a entendu sur disque. Voilà, c'est le cinquantenaire du premier enregistrement en bossa nova.
Et c'est vrai que bon, peut-être on va écouter après quand même une polémique par rapport aux dates au Brésil, pour ceux qui disent c'est 58, lorsqu'ils disent 59. Et peut-être que ça aussi, c'est lié aussi à la question de la diffusion.
C'est une question de musicologie. Je ne sais pas si on retient le note de l'enregistrement studio, je ne sais pas si on retient la date de la diffusion dans le commerce et la date des premiers achats ou d'apparition ou de parade, je ne sais pas. Il y a toujours une ambiguïté quand on regarde sauf quand le compositeur dit c'est à cette époque que je l'ai composé. Alors c'est de quoi on parle. Mais sinon, les dates qui figurent, on ne sait jamais très bien.
Au Barquino, c'est 1961, donc une composition de Roberto Ménescal, dont tu nous disais, Yves, qu'il était un petit peu. Celui qui peut-être pas le coordinateur, mais celui qui dépeignait musicalement aussi le cadre de vie de cette jeunesse-là et de cette équipe, et qui aujourd'hui en est le continuateur et le représentant au Brésil.
Oui, il a été très ami de Nara Leão, c'est peut-être un euphémisme. Je sais qu'il a quand même donné l'occasion à Nara Leão d'enregistrer au Japon pour la première fois le CD, cette fois-ci, le CD Garota de Ipanema, qui c'est pourtant pas un morceau de lui, mais le CD s'appelle Garota de Ipanema, Nara Leão et Roberto Ménescal, premier disque de bossa nova au Japon. Et donc, il est incontestablement un acteur présent depuis longtemps, depuis plus que 50 ans, enfin, de ce mouvement musical, quoi. Il n'est pas aimé de tout le monde. Hein. Mais
comme Nara Leão, d'ailleurs.
Hein. Non, Nara Leão est estimé de tout le monde, mais à divers titres.
J'ai blagué, parce qu'au niveau chanteuse, parce que tu trouves que ce n'est pas vraiment une très bonne chanteuse.
Non, je n'ai pas dit ça. Personne ne considère que c'était une chanteuse au départ. Elle a chanté de mieux en mieux. Quand elle a chanté à l'Olympia en 84, et que j'ai loupé le concert pour cause de jury d'examen, je n'ai pas pu y aller, mais personne ne considérait qu'elle avait le droit de chanter à l'époque. Et c'est comme d'ailleurs Chico Buarque au début, mais ça, il n'est pas. C'est le cas fils de la bossa nova. Mais ces gens n'avaient pas forcément besoin d'être aussi excellents chanteurs que João Gilberto pour chanter. Baden chante faux.
Baden Powell.
Oui.
Bon, revenons à Obarquino, cette histoire donc de barque, de bateau qui tombe en panne, racontée en musique par Roberto Ménescal, également interprète avec le Oscar Castro Neves Quartet de la version que nous allons entendre maintenant.
De luz e um barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão e o amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar e o sol beija o barco e luz. Dias tão azuis. Volta do mar, desmaia o sol e um barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilha. ilhas do sul, e um barquinho ao coração, e a asa de canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. Então o barquinho vai, a tardinha cai, volta do mar, desmaia o sol, e a vontade de cantar, um barquinho a deslizar. Céu tão azul, ilhas do sul, e um barquinho ao coração, deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. Então o barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai, a tardinha cai. Tum dip, 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 tum. O barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai, a tardinha cai. Tonde, 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 tonde.
Roberto Menescal avec Tom Jobim qu'on écoutait, dont on a écouté plusieurs des classiques, un des compositeurs majeurs. Non Yves, on ne fait pas de grands gestes, je disais juste que c'était avec Tom Jobim, un des compositeurs principaux de cette bossa nova naissante, mais il y en a d'autres. Tu voulais peut-être notamment nous faire écouter Carlos Lira.
Oui, juste
Armando.
Yves Guénon, ce style un peu syncopé, est-ce que c'est pas très très proche de Roberto Menescal? C'est très proche quand même des sambas traditionnels, cette manière de jouer. La guitare solo, très très syncopée.
La guitare traditionnelle.
Non, la guitare solo, oui. Syncopée comme la samba traditionnelle, enfin la samba qu'on appelle la samba des Rio.
En tout cas, si tu veux, je me suis rendu compte à l'occasion de ces synthèses actuelles que ces morceaux de Marcos, de Roberto Menescal, et aussi de Marcos Valls, ce sont ceux qui sonnent le plus comme ce qu'on s'entend à écouter quand on parle de bossa nova et de musique brésilienne. Mm-hmm. Alors que quand on écoute du Jobim, des fois, ça va vers des développements mélodiques, peut-être plus musique de chambre. Et d'ailleurs, Jobim existait avant la bossa nova, il existait pendant, il a contribué à sa création au point que on pourrait évoquer les occurrences données par Google quand on tape son nom par rapport à d'autres. C'est très amusant à regarder. Et il a existé après la bossa nova. Jobim est un compositeur d'une importance, j'ai envie de dire, plus grande que le simple mouvement de la bossa nova. Jobim, c'est le compositeur de chansons populaires de la deuxième partie du XXe siècle. Si le premier était, je sais pas, Gershwin. Donc Menescal, quand il compose, c'est peut-être moins cosmique que Jobim, mais c'est plus régional, c'est plus folk urbain de la ville de Rio. C'est plus samba, oui. Mm-hmm. Ça sonne plus samba. Mais Carlos Lira, puisqu'on va vers Carlos Lira maintenant, on est trop pressé dans vos radios. Hein.
On aimerait avoir des heures et des heures avec toi, Yves, mais malheureusement, bon.
Carlos Lira est considéré comme un des plus grands mélodistes de la bossa nova, et ça a été aussi un énorme partenaire de Vinicius de Moraes. Il participait au concert le 1er mars dernier à Rio. Il a fait des chansons. Si un jour on parle du lyrisme dans la bossa nova, tout en étant aussi, j'ai envie de dire, rythmique et moderne que Menescal, il a des chansons d'une mélodie inouïe.
Coisa mais linda, Você e eu, par exemple.
La primavera. Minha namorada, c'est inouï de voir, quand on assiste à un concert de quiconque entame cette chanson à Rio, de voir 3000 personnes se mettre à chanter à l'unisson.
C'est impressionnant.
C'est très impressionnant. Mmh. Il fait aussi partie des gens qui, à un moment donné, il y a eu une cassure dans la bossa nova. Si on revient un petit peu à l'histoire, si on prend un peu d'altitude, il y a eu, à un moment donné, des gens qui considéraient que tout ce qu'on vient de dire, c'était trop léger, c'était trop BCBG, je sais pas. Enfin, si c'est l'expression n'existait pas à l'époque. Et qui, il y avait le Brésil, les musiciens avaient un petit peu au Brésil ignoré.
On dirait plutôt, on dit aujourd'hui bobo, non?
ils avaient négligé la composante, disons, sociologique, sociale. Et qu'il fallait être plus brésilien, moins mode. Et donc, il a participé à des mouvements universitaires à l'époque qui étaient très, très, très marqués sur le désir d'aller vers autre chose socialement, qui aboutit à un show au Pignan en 1964. Responsable Nara Leão. Nara Leão, qui était l'inspiratrice et l'interprète de ce show, ou qui a été un moment clé. Mais bon, il était avec dans cette tendance-là. Et là, pour critiquer les gens qui parlaient de l'influence du jazz, avec un certain humour aussi, Carlos Lira va évoquer pauvre samba. On t'a malmené, mais tu es toujours là, quoi. Alors, je crois qu'il faut écouter Influence du jazz par Carlos Lira.
Pobre samba meu, foi se misturando, se modernizando e se perdeu. E o rebolado, cadê, não tem mais? Cadê o tal gingado que mexe com a gente? Coitado do meu samba, mudou de repente, influência do jazz. Quase que morreu, e acaba morrendo, está quase morrendo, não percebeu. O samba balança de um lado pro outro, o jazz é diferente, pra frente, pra trás. E o samba meio morto, ficou meio torto, influência do jazz. No afro-cubano vai complicando, vai pelo cano, vai entortando, vai sem descanso, vai, sai, cai do balanço. Pobre samba meu, volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu. Pra não ser um samba com notas demais, não ser um samba torto pra frente e pra trás, vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz. No afro-cubano vai complicando, vai pelo cano, vai entortando, vai sem descanso, vai, sai, cai do balanço. Pobre samba meu, volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu. Pra não ser um samba com notas demais, não ser um samba torto pra frente e pra trás, vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz.
Nous venons donc d'écouter Influencia do Jazz, morceau de Carlos Lira, qui est également l'interprète que l'on vient d'entendre. Nous sommes en 1962 et, ironiquement, tu nous disais, Yves, il évoque le devenir de cette pauvre samba et l'influence américaine qu'on a pu critiquer au bossa novice, qu'on a pu reprocher, pardon, au bossa noviste.
Oui, mais cette influence, elle est extrêmement, comment dire, ambivalente. C'est-à-dire que la jeune équipe qu'on a évoquée au début de notre discussion là, faisait partie d'un club des Dick Farney, comment il s'appelait, le Sinatra Farney Club. Donc ils étaient fans de Dick Farney et de Frank Sinatra, et ils écoutaient cette musique qui venait des États-Unis. Et Jobim, je ne sais pas s'il était membre du club, mais Jean Gilberto, il allait écouter souvent ça avec Joan Donato, qu'on n'a pas assez cité encore. Et bon, et un jour, évidemment, quelle ironie de l'histoire, les musiciens américains découvrant cette musique, ça va donner en non seulement le fait que c'est Stan Getz qui fait inviter toute l'équipe de la bossa nova en 62, le 21 novembre au Carnegie Hall, dans une confusion, paraît-il, inénarrable. Un concert où tout le monde s'est plaint de tout et qu'on devrait même pas écouter, mais enfin qui a permis au monde, enfin en tout cas
au monde occidental, oui.
Et donc aux Japonais après, et de connaître cette musique. Beaucoup de gens ont découvert la musique par le fait que les musiciens avaient eu l'occasion de l'interpréter aux États-Unis. C'était lié
à New York. Avec Astro Gilberto, avec Joao Gilberto, avec Tom Jobim aussi, je crois qu'il était présent.
Oui. Au Carnegie Hall.
Au Carnegie Hall.
C'est, les gens qui y étaient, Voilà, au Carnegie Hall, il y avait Tom Jobim, Jean Gilberto, le guitariste Bolasech, la chanteuse Carmen Costa, le pianiste argentin Lalo Schifrin, dont on se demande qui se faisait dans l'équipe. Bon. Puis, en même temps, Oscar Castroneves, Agostinho dos Santos, Luis Bonfa, Carlos Lira, le sextet Sergio Mendes, Roberto Menescal, Normando Santos, qui a vécu à Paris par la suite, Milton Banana, Sergio Ricardo, bah, toute une équipe, un commando, comme
il dit. Il n'y avait pas Astrud Gilberto, hein, pardon.
Je pense pas, non.
D'accord.
En 62, d'ailleurs, la chanson qu'il a rendue célèbre, Astrud, c'est en 63 qu'elle est sortie, c'est Garota de Ipanema. Et je voudrais revenir sur le fait que, bon, à partir de la Garota de Ipanema, que tout le monde a identifié à Astrud, alors qu'en réalité, c'était une personne tout à fait déterminée, c'était une autre personne qui passait tous les jours pour aller à la plage devant le bar Veloso, à l'époque, rien à voir avec Caetano.
Non.
Et qui est devenu aujourd'hui bar Garota de Ipanema à Ipanema, rue Vinicius de Moraes.
Je sais que c'est ça.
Bon, c'était Elio Pinheiro. Bon, on ne va pas parler de. J'en étais à parler de Frank Sinatra. C'était. Il y a déjà eu le succès de Garota de Ipanema en 63. Mais quand même, dans les années 66, je pense, 67, Tom Jobim, toujours. Attablé à ce bar Veloso avec Vinicius, à boire des bières et à regarder passer les filles vers la plage, chose qu'il revendique complètement comme un acte, disons, extrêmement poétique et peut-être civilisationnel.
Mais Rio s'y prête aussi quand même comme ville, non?
Ah ben
on
oui,
a
c'est...
ce type de rêverie sans trop énerver les gens des São Paulo.
J'aime que ce soit toi qui le dise, Armando. Et donc, imaginons Jobim ayant eu son succès de Garota de Ipanema, qui se voit dire par le garçon de café du bar, c'est Jobim, monsieur Jobim, on vous appelle des États-Unis. C'est Frank Sinatra. Alors tout le monde chambre Jobim, qui se lève même pas pour y aller. Puis il y a Frank Sinatra qui vous attend au téléphone. Et Frank Sinatra demande à Jobim de venir enregistrer avec lui aux États-Unis en 67. Il va y avoir un album complet, Frank Sinatra et Jobim. D'ailleurs, se trouve aussi très, très, comment dire, choquant, mais enfin très... Nous, ça nous choque maintenant. Il lui dit, mais vous serez pas au piano. Jobim était un pianiste. Parce qu'il y a déjà un pianiste. Il faudrait que vous soyez à la guitare. Parce que le Latin Lover apparaît avec une guitare actuellement. Et Jobim a dit, aucun problème. Et c'est là où on voit cette fameuse photo de Jobim qui arrive à New York avec une guitare à la main. Et dans le disque, il joue de la guitare. Comme quoi, rien ne l'arrête, quoi.
Et
Frank Sinatra,
idole de, enfin, référence
de nos parents,
et de toute cette jeunesse de Rio à l'époque, 1967, How Insensitive.
I must have seemed when she told me that she loved me. How unmoved and cold I must have seemed when she told me so sincerely. Why she must have asked, did I just turn and stare in icy silence? What was I to say? What can you say when a love affair is over? Now she's gone. and I'm alone with a memory of her last look. Vague and drawn and sad, I see it still, all her heartbreak in that last look. Ah, porque você foi falso assim, assim, tão desalmado. Oh, what was I to do? What can one do when a love affair is over?
How Insensitive, avec la voix de Frank Sinatra, qui décidément, au-delà de son image de crooner, a influencé toute une génération de musiciens, qu'ils soient brésiliens, américains ou d'ailleurs. Frank Sinatra et Antonio Carlos Jobim, 1967, un morceau dont tu nous disais, Yves Guénoun, toujours avec nous pour cette émission spéciale, qu'on y entend harmoniquement parlant l'influence de oui, qu'il y avait une citation de Chopin, c'est
non, je voulais dire simplement que si l'un des mots clés était l'harmonie, on aurait pu choisir ce morceau Insensitive, parce que quand on développe le début de cette musique, on se rend compte que ça correspond à un essai nocturne, un prélude de Chopin. C'est d'ailleurs Gainsbourg l'a utilisé aussi. Je t'aime moi non plus.
C'est tu saurais te le dire.
Hein? Je ne sais plus.
Non, mais... c'est dans le morceau qu'il avait fait avec Charlotte Gainsbourg, non? C'est pas ça.
Je ne me rappelle plus.
Moi non plus. Bah, bref, un fois la prochaine
donc,
émission.
Si tu veux, c'est-à-dire Chopin est quand même une influence revendiquée par Jobim. Donc Chopin, Jobim, Sinatra. Ce morceau, c'est du concentré d'informations quand on regarde un petit peu les différentes strates.
Et puis, plus, quand on prononce en français Chopin et voilà. Jobim, ça rime. Hein.
Non, mais attention, tu m'as appris. C'est pas toi qui m'as dit hier que Jobim, à un moment donné, se disait que quand même, si on réfléchit, on n'est pas très loin de la rue Jobin ici. Hein, voilà.
Oui.
Donc ça oui. Va. Mais quand on regarde Jobin, il considère qu'il avait des ancêtres de Normandie qui s'appelaient Jobin. On ne sait pas comment le N est devenu M, mais de Jobin à Chopin. En plus, il y a quand même une correspondance. J'ai appris ça hier soir moi.
Alors, il s'est écoulé presque 10 ans depuis la naissance de la bossa nova avec Chopin
et Handel.
Et on est de nouveau à New York et on.
Et le mouvement, il va vers quoi, à ton avis, là, 10 ans après, en 67?
Alors, c'est explosion totale. On peut dire que il n'y a plus aucun pays où ce genre de chanson. Pas la bossa nova, où la chanson, disons, classique, le chant accompagné, est interprété. Il n'y a plus aucun pays où on ne pourra plus négliger l'influence de la bossa nova.
La bossa nova a révolutionné la chanson populaire en général.
D'une manière générale, quoi. Et puis surtout, c'est que même quand actuellement on entend des gens qui ne procèdent pas, disons, de l'école bossa nova, car la bossa nova est aussi une école pour tous les musiciens. C'est une école qui ne s'arrête pas, c'est une formation continuée. mais si tu veux, on entend actuellement, si on entend certains chanteurs, on sait s'ils ont fréquenté ou pas la bossa nova par le fait que les accords qu'ils pratiquent sont des accords simples ou sophistiqués, si la rythmique est syncopée ou pas. Et la syncope, c'est le typique de la musique américaine du XXe siècle, nord ou sud. Et donc bossa nova égale harmonie plus syncope, donc c'est américain. Mélodie latine, donc chantable par nous, alors qu'on peut avoir du mal à se repérer dans certaines mélodies anglo-saxonnes. Ça nous concerne de très près. Mais il y a eu aussi tout ce débordement vers les musiciens, les instrumentistes, qui sont plus arrêtés d'interpréter en trio jazz, jazz de boîte, comme ils disent, jazz de jazz club.
Et voire même d'ascenseur.
Oui. Mais quel plaisir.
Parce que la bossa d'ascenseur, ça existe aussi.
Oui, mais quel plaisir dans un ascenseur où il y a de la bossa. Mais parmi les trios, sauf si tu veux qu'on parle d'autre chose,
parmi les
musiciens, on va dire de jazz, mais qui n'oublient pas qu'ils sont brésiliens, il y a l'excellente Eliane Elias.
Dont on écoutera sans doute une interview à Armando dans la semaine,
dans les événements. Oui, tout à fait.
Et je pense que tu avais décidé qu'on écoute maintenant.
Avions décidé ensemble, bien sûr, puisque c'est quand même aussi une histoire de plaisir partagé, cette émission, avec vous aussi, on l'espère, auditeurs.
D'ailleurs, les auditeurs sentent qu'on est très spontanés, là.
Oui, c'est vrai qu'il y a par rapport à ça, parce qu'il y a des thématiques qu'on devait aborder, mais c'est vrai que je laisse ça pour l'interview avec Eliane Elias. Notamment cette histoire aussi entre Rio, la rivalité entre Rio et São Paulo au niveau de si la bossa nova est de Rio, de São Paulo. En tout cas, elle était de celle qui disait pour moi la poésie elle est de Rio, mais la ville qui a fait que cette musique se répand dans le monde entier, c'est São Paulo.
En tout cas, si tu veux, beaucoup de musiciens qui ont trouvé dans São Paulo un marché qui était moins rentable quoi, que Rio, quoi.
À l'époque.
Y compris Johnny Half. Et il y a eu aussi un mouvement bossa nova à São Paulo avec d'excellentes chanteuses comme Claudette Soares, que j'espère bien écouter la semaine prochaine. puisque j'ai vu qu'elle se produisait en ce moment là-bas.
Donc le trio jazz et le jazz en général, oui. C'est en retour, j'ai envie de dire, aussi emparé de cette musique relativement nouvelle, la bossa nova. Et
quel merveilleux va-et-vient, comme dans les poésies de Vinicius de Moraes, entre le jazz et la samba, entre le c'est pas le jazz et la java, c'est non. Le jazz et la samba. Et entre le nord et le sud, entre les bémols et les dièses, entre les États-Unis et le Brésil, puisque après avoir en partie peut-être, disons, influencé les musiciens brésiliens, on considère actuellement que la bossa nova, certains considèrent, c'est une des parties du jazz, c'est-à-dire que elle fait partie une composante du jazz. Et le jazz, après avoir un petit peu arrosé les musiciens brésiliens dans les années 50, depuis s'est abreuvé à la source brésilienne. Et il y a une interprète actuelle qui est Eliane Elias, donc qui en tant que jeune musicienne brillante, pianiste, on peut dire que c'est Bill Evans en femme.
Mais qui a connu, en tout cas, elle a commencé une carrière très très jeune, d'ailleurs, de l'âge de 5 ans, d'ailleurs. Hein,
oui. Mais en tant que pianiste, elle a été repérée comme, lors d'un concert de Jobim et Vinicius à São Paulo, et elle est restée avec eux dans l'année 80, elle a vécu avec eux que Vinicius décède. Et ben, elle avait un petit peu oublié, elle était pianiste de jazz. Il y a aussi des Brésiliens qui sont pianistes de jazz, comme dans tous les pays. Le jazz est une musique hospitalière qui permet aux gens qui ne sont pas... C'est pas un folklore, c'est un folklore universel qui permet aux gens de tous les pays de le pratiquer. Et ben, et quelqu'un lui a dit, mais vous êtes quand même brésilienne. Alors, et après avoir rencontré... Il est revenu quelques années plus tard le désir d'interpréter des standards brésiliens. Et comme elles interprètent bien... Alors là-dedans, il y a évidemment toute l'école de Bill Evans, tout le répertoire brésilien bossa nova et tout le talent d'Eliane Elias. Et puis en plus, des gens lui ont demandé, mais pourquoi vous chantez pas? Alors c'est là où je suis en désaccord avec Armando Cox. C'est pas parce qu'elle chante que c'est une chanteuse, mais comme elle, c'est agréable quand elle chante aussi. Et alors, si on écoute la samba do Avião,
Song of the Jet, oui, en anglais.
C'est quand même pas négligeable de signaler que Jobim a composé cette samba et que après sa mort, l'aéroport de Rio s'appelle Aéroport Tom Jobim. C'est cet enchantement qu'on ressent quand on arrive à Rio, qu'on voit, pareil, qu'on le voit. C'est pas toujours qu'on le voit. Hein. Ça dépend de quel côté on arrive.
Surtout.
Et puis ouais. Peut-être qu'il a fait en arrivant à l'aéroport Santos Dumont, mais alors que maintenant on arrive dans l'île du Gouvernador, là au Galéon. Mais Samba do Avião, et c'est intitulé Song of the Jet. Ouais. Et alors, non seulement la composition est déjà sophistiquée, mais Eliane Elias se permet de moduler toutes les 8 mesures, pratiquement, et on reconnaît quand même la musique. C'est pas une improvisation free complètement. En tout cas, cette friture-là est bien bonne.
Thank you.
On vient d'entendre donc Eliane Elias en formation, donc de formation plutôt jazzistique et avec une reprise plutôt jazzifiante de Song of the Jet, composition de Tom Jobim de 1963. Et on approche de la fin de cette émission spéciale autour des 50 ans de la bossa nova, Yves Armando, et on se disait que on ne pouvait pas manquer d'évoquer le trio vocal qui, dans la bossa nova aussi, j'ai envie de dire, a été une forme particulièrement privilégiée.
Tu voulais qu'on cite tous ceux dont on n'a pas parlé?
Ah, ça va être difficile.
Ça sera pas possible. C'est un enfer. Non, parce que voilà, il y a eu donc comme conséquence toute une pratique des instrumentistes, et il y a une liste d'instrumentistes énormes qui se réclament de l'influence de la bossa nova. Alors bon, parmi ceux qui étaient à l'origine aussi, parce qu'on a toujours essayé de cerner aujourd'hui ce qu'il y avait dans le gemme, dans l'œuf de la bossa nova, il y a un groupe qui existait avant la bossa nova, qui existe encore aujourd'hui avec les enfants de ceux qui l'ont, sauf le Severino Filho qui est toujours au piano. Et donc c'est le groupe Os Cariocas. Et
donc là, eux, ils annoncent la couleur, Carioca, donc de Rio. Quoi.
Mais quelle belle couleur. Et surtout, ils interprètent, dans le morceau qu'on a choisi, Samba do Verão, parce qu'on ne voulait pas oublier de citer Marcos Valle. Tu sais que Marcos Valle passe en juin-juillet en Espagne et à Londres, et que, comme certaines personnes n'ont pas accepté l'idée qu'il ne passe pas en France, il risque de passer en France en septembre. Et donc, peut-être aussi à Marseille.
Peut-être à Marseille, peut-être oui. Pourquoi pas une petite balade. Brésilienne.
Alors Marcos Valle a composé Samba de Verão, qui est un des thèmes les plus connus et qui parle encore de l'été, toujours l'été. Enfin, ça tombe bien aujourd'hui.
Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração.
coração. Salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem, sempre tem esse mar no olhar. E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem, vem. Deixa então, falo só, digo ao céu, mas você vem. Tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem, vem. Deixa então, falo só de você, mas você vem, 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 vem.
Samba de Verão.
De Verão.
De Verão. Excusez-moi.
João. Coração.
Pendant une semaine, il va apprendre.
Je vais avoir le temps de m'entraîner pendant cette semaine spéciale consacrée aux 50 ans de la bossa nova, qui s'ouvre avec cette émission spéciale qui touche à sa fin. On voulait finir en parlant quelque chose que tu as déjà évoqué, Yves, au détour de la conversation, la place et la réception qu'a eu la bossa nova en France. Tu nous parlais tout à l'heure de ces mélodies latines, de ces harmonies inspirées du classique et de cette synthèse rythmique de la polyrythmie brésilienne qui sans doute ont permis au public européen en général, français peut-être plus particulièrement, de faire sienne la bossa nova. Et à ce titre, il y a plusieurs noms qu'on ne peut pas manquer de citer, et on était en train de parler hors antenne d'Henri Salvador.
Voilà, Henri Salvador est un immense artiste.
Fut un immense artiste, malheureusement.
Mais... Non, en tant qu'artiste, il est un immense artiste. il est un cousin. Il n'est pas le père ni le parrain de la bossa nova. Il en est un cousin très très proche. C'est lui-même qui le dit, qu'il n'a pas inventé la bossa nova. Et seulement, il a quand même fait la musique d'un film qui s'appelait « Dans mon île ». Qui non seulement a été repris par Caetano Veloso récemment, mais cette histoire du film, la musique du film Dans mon île, quand on écoute la musique du film Dans mon île, c'est un boléro. Les Brésiliens adorent les boléros, et on aurait pu évoquer, si on s'était attardé sur la musique, sur la phase des précurseurs de la bossa nova, la manière dont ils pratiquaient le boléro. C'est un boléro. C'est en aucun cas ni une rythmique. Les accords sont tout à fait classiques. Mais il y avait cette manière de susurrer. Qui était un peu international à l'époque. Il y avait Jean Sablon aussi, il y avait des chanteurs et des chanteuses américaines qui chantaient très intimistes. Mmh. Bon. Et Henri Salvador, bon, il faut lui rendre hommage.
Oui, c'est comme tu parlais du cinéma, justement, peut-être faire aussi un clin d'œil par rapport à la première, disons, présence en France de la bossa nova, c'est par le cinéma.
Oui, c'est aussi Orfeo Negro, c'est-à-dire ce n'est pas directement un film bossa noviste, mais c'est un film où on va entendre Luis Bonfa qui interprète à la guitare une musique que tous les Français ont repérée. Ils ont identifié le phénomène de cette mélodie brésilienne grâce à ce film, et aussi en même temps que le carnaval. C'était une chose géniale que Vinicius nous a permis de découvrir, c'est qu'à Rio, on aime autant le carnaval que le romantisme. Il y a autant de carnaval à l'extérieur qu'à l'intérieur de soi.
Il y a aussi Pierre Barreau quand même, important Pierre Barreau, pour la France en tout cas, qui est une grande référence, et particulièrement dans ce film magnifique qui était d'ailleurs, je crois, pris quatrième prix à Cannes, c'est Un homme, une femme.
Et oui, tu te rends compte, 59, la Palme d'Or va à Orfeo Negro, 60, Un homme, une femme. Et dans Un homme, une femme, Pierre Barreau a confié une séquence entière, Claude Lelouch a confié une séquence entière à Pierre Barreau, et qui interprète une samba. Alors c'est samba d'Abensan, qui est devenue Samba Sarava en France, traduite par Pierre Barou, et qui est de Pierre Barou et Baden Powell, encore un nom qu'on n'a pas encore assez écouté.
Tout à fait.
J'en peux plus.
Grand ami de Vinicius de Moraes. Mais en tout cas, c'est ce qui permet aussi de conclure peut-être qu'avec, tu parlais de Henri Salvador, un homme du Sud, et ce qui justifie aussi qu'il y ait le Sud et à Marseille, les 6 juin, on puisse rendre vraiment un très grand hommage à la bossa nova, qui est aussi une musique très très française, il faut le dire.
J'ai envie de dire que Marseille le mérite, cet hommage, et la bossa aussi.
On peut avoir plus d'informations sur le MySpace des balades brésiliennes.
Voilà,
Armando, c'est ça?
Voilà, si la balade brésilienne, le MySpace balade brésilienne. En tout cas, pour ceux qui veulent avoir aussi des infos, si vous me permettez quand même de dire que c'est un collectif, donc les balades brésiliennes, c'est un collectif aussi bien d'artistes comme d'opérateurs culturels, avec lesquels Yves lui-même aussi, il est très très engagé. C'est un des premiers, en tout cas fans, qui soutient ces projets en disant qu'il faut qu'il y ait une présence brésilienne au niveau culturel, différemment que les trucs uniquement, disons, football, carnaval et femmes à poil. Mais en tout cas, l'autre regard sur le Brésil avec ces moments qui va réunir une cinquantaine de musiciens qu'on connaît tous.
C'est le 6 juin au jardin de la Barrasse.
De la Barrasse.
J'ai rien contre le carnaval, ni contre le Brésil, ni contre le football, pardon.
Non,
ni
pas
contre
du tout.
Les femmes.
Voilà. Mais en tout cas, les Brésiliens ne se résument pas à ça. Et c'est aussi la bossa nova. Donc, c'est ces moments que nous proposons avec une grande fête, à boire, à manger, une feijoada, une churrasco et surtout la musique.
Mais si, Stéphane, cette émission a été une fête, toute fête a une fin et tout carnaval a un lendemain, un moyen du carnaval.
Et c'est avec ce titre, peut-être la
super,
très connue des Français qu'on va se quitter. Merci beaucoup, Yves Linoun.
Merci à vous de m'avoir invité.
Ciao, galera.
Merci, Armando. On se quitte avec Mania de Carnaval, extrait de Orfeu Negro.
Nos lábios teus canto meu coração. Alegria voltou, tão feliz amanhã desse amor.